Avant de continuer ce récit de ma vie sur Terre, j'aimerais à nouveau souligner que tout dans l'univers est un état de conscience particulier et individualisé, rendu visible. J'ai dû descendre de mon état de conscience d'amour universel actuel pour revivre ma vie sur Terre, laquelle reste imprimée de manière indélébile dans l'énergie consciente du monde lui-même, datant du moment de sa création. Comprenez que, lorsque j'ai abandonné mon corps en Palestine, j'ai laissé derrière moi tout ce qui appartenait à cette vie. J'avais accompli ma mission. C'est pourquoi, quand je suis mort sur la croix, j'ai été libéré et élevé dans la lumière glorieuse, pour prendre part à cette lumière, pour être la lumière, et me réjouir dans la lumière qui est amour universel, vie, beauté, harmonie, joie et ravissement. Se déplacer dans différents niveaux de conscience n'est ni facile ni agréable. C'est uniquement parce qu'au moment de ma mort en Palestine, ma mission sur Terre n'était pas achevée que je reviens aujourd'hui vous aider à vous préparer à entrer dans un nouvel âge, une nouvelle phase d'existence individualisée sur Terre. Vous comprendrez peut-être un peu mieux ce que j'entends par une entreprise ni facile ni agréable si vous songez à ces moments où vous ramenez à votre conscience une grande tristesse vécue, vous surprenant à réagir avec presque autant de tension et d'émotion que lorsque cette tristesse a été vécue pour la première fois. Réfléchir à des souffrances et des douleurs passées vous donnera envie de pleurer. Vous sentirez la dépression et l'angoisse originelle revenir en revivant ces moments en imagination. Vous aurez peut-être envie de solitude parce que votre conscience sera alors descendue de votre état d'équilibre paisible et bienheureux pour revivre les vibrations de conscience et les formes de conscience basse que vous aviez créées au moment initial de vos souffrances. Le changement d'humeur indique un changement d'énergie de la conscience. L'élévation de vos vibrations de conscience vous donne un élan physique, émotionnel et mental qui vous rend heureux. Une baisse d'énergie de votre conscience affaiblira le fonctionnement de votre système tout entier et vous sentirez un début de dépression, ou du moins un poids, affectant votre légèreté antérieure. Je vous décris là un fait de l'existence. Votre univers tout entier manifeste les différentes fréquences de vibration des particules d'énergie de la conscience. Lorsque ces fréquences s'élèvent ou s'abaissent d'un niveau à l'autre, les structures visibles et physiques manifestent, elles aussi, différents niveaux d'énergie. Il s'ensuit un changement des schémas mentaux, des émotions, des apparences. Seul mon amour pour l'humanité m'incite à descendre de mon état de conscience pour revenir aux conditions de ma vie sur Terre. Depuis 2000 ans, les chrétiens revivent le traumatisme de ma crucifixion. Certaines personnes ont même des stigmates qui ne sont rien d'autre qu'une réaction émotionnelle, hystérique et morbide à ce qu'ils croient que j'ai enduré. Des gens se sont surexcités au point de vivre des pics émotionnels qui s'apparentent à de la frénésie en imaginant l'angoisse de mes souffrances avant ma mort. Leur gratitude émotionnelle pour mes souffrances passées les plonge dans une détresse physique. Ces mots sont dictés un vendredi saint, jour où précisément je vous parle de ma crucifixion et vous demande d'abandonner tout le drame associé au souvenir de ma mort. Je suis mort et ce fut pour moi un soulagement merveilleux. Il est temps que les gens se réveillent de leur long, long rêve et comprennent bien l'existence telle qu'elle est en réalité, ainsi que la vérité concernant ma crucifixion qui a été cachée jusqu'à aujourd'hui. Le Vendredi Saint, année après année, des siècles durant, vous avez créé un état de conscience traumatique qui a contaminé le monde entier et qui est aussi éloigné de la dimension spirituelle de la conscience créatrice universelle que l'est l'enfer du paradis. Maintenant que je choisis de revivre ma vie sur Terre dans le personnage de Jésus par l'intermédiaire de ma porte-parole, afin d'aider le monde à accéder à une nouvelle phase de développement mental et spirituel, je demande à ceux qui peuvent accueillir mes paroles de renoncer à la pratique consistant à se rappeler ma mort et à exercer une négation de soi physique pendant le jeûne du carême pour commémorer mes 40 jours dans le désert. Car, vous l'avez compris à la lecture de ce récit, ces moments dans le désert furent emplis d'une intense joie et de bonheur spirituel. Beaucoup d'événements d'une grande signification spirituelle ont eu lieu juste avant ma mort, qui sont d'excellents exemples des grandes lois cosmiques en action dans votre dimension d'existence. Voici un bref compte-rendu de ces événements importants dans le but d'éclairer totalement votre esprit et de vous transmettre une connaissance dépassant toute connaissance jamais reçue jusqu'ici par quiconque dans votre univers. Quand je préparais mes disciples à ma mort prochaine, la tâche fut extrêmement difficile. Ils purent à peine contenir leur consternation et leur étonnement. L'idée que j'allais être crucifié comme un criminel ordinaire leur était insoutenable et ils ne voulaient pas non plus me perdre. Je les avais appelés à me suivre et à abandonner leur vie, qui était assez prospère. Ils avaient quitté leur famille et leur maison pour reconstruire leur vie autour de moi et de mon œuvre. Ils étaient devenus fiers de mon succès grandissant, de ville en ville. Ils étaient prêts à s'associer à mon nom, à être reconnus comme mes disciples malgré le rejet et les dures critiques de leurs dirigeants religieux. En outre, ils m'aimaient et me respectaient, aussi bien pour ma façon de vivre mes propres enseignements que pour celle dont je guérissais tant de gens avec une si grande compassion et apportais du réconfort dans leur vie malheureuse. Ils croyaient vraiment que j'étais le Fils de Dieu. Comment le Fils de Dieu pouvait-il finir sur la croix ? Se demandaient-ils. Leur horreur augmentait à chaque question posée. C'était impensable. Ils sentaient un vide colossal s'ouvrir devant eux, un vide dans leur vie, un véritable abîme fendre la terre qu'ils foulaient, une incertitude et une vacuité de vivre immense au fond d'eux-mêmes. Ils n'osaient envisager ce que je leur disais de ma future crucifixion. Un tel événement détruirait tout ce en quoi ils avaient cru de tout leur cœur. Aussi mes disciples résistèrent-ils haut et fort à ce que j'essayais de leur dire. Ils me répétaient sans cesse qu'une telle chose ne pourrait jamais être. Comme je résistais fermement à leurs démentis obstinés, ils furent finalement forcés de se rendre à l'évidence et d'accepter ouvertement qu'une telle chose puisse se produire. Je leur dis qu'après ma mort, ils me verraient de nouveau et que je m'attendais à ce qu'ils poursuivent le travail que j'avais commencé. La douleur que je leur infligeais et les discussions que je suscitais chez eux m'affectaient aussi profondément. Il n'était pas facile d'entreprendre le voyage à Jérusalem où m'attendait mon destin. Par-dessus tout, je me demandais comment j'allais relever ce grand défi. Serais-je capable de transcender mon état physique, d'entrer dans la conscience universelle Père et d'y rester jusqu'à ma mort ? Parfois, l'épreuve m'effrayait terriblement, mais je n'osais pas révéler cette frayeur à mes disciples. C'est pourquoi je commençais mon dernier voyage à Jérusalem avec des sentiments extrêmement mitigés. D'un côté, j'étais las de guérir, de parler et d'instruire les gens qui écoutaient bouche bée, sans comprendre vraiment ce que j'essayais de leur dire. Je pensais que ma connaissance leur permettrait de quitter leur misère ou, tout au moins, d'établir le contact avec le Père et d'avoir un aperçu du royaume des cieux. Il n'y avait eu aucune preuve d'un tel éveil spirituel, même parmi mes disciples. Ma déception et mon sentiment d'échec me rendaient heureux de quitter la vie terrestre pour aller vers l'existence glorieuse que je savais m'attendre après ma mort. D'un autre côté, je me demandais comment j'allais supporter la douleur de la crucifixion. Tout au long de ma mission, j'avais vécu dans un état d'esprit plus ou moins constamment paisible. Mes pensées centrées sur la conscience d'amour Père, créateur de tout être, sachant que je n'avais qu'à demander et que tout ce que je demandais se manifesterait aussitôt. Serais-je capable de conserver toute ma sérénité lorsqu'on me porterait devant le conseil, lorsque l'on m'amènerait à la crucifixion, lorsque je serais cloué sur la croix, mes mains supportant le poids de mon corps ? Parce que maintenant, je cédais au doute et à la peur, le niveau habituel des fréquences de ma conscience baissait rapidement. Cela me faisait redescendre dans les fréquences de conscience du plan terrestre. Je redevins la proie de mon agressivité d'autrefois, qui m'incitait à commettre des actions déraisonnables que je n'aurais jamais envisagées plus tôt, quand j'étais dans mon état d'harmonie totale avec la conscience d'amour Père. Mes doutes et mes conflits internes s'extériorisèrent dans ma vie sous forme d'émotions et d'impulsions humaines qui contrevenaient à la loi cosmique d'amour. Il y eut d'abord l'épisode du figuier. J'avais faim et j'allais vers l'arbre, ne m'attendant pas vraiment à y trouver des fruits, car ce n'était pas la saison des figues. Ma recherche s'avère en vaine, je maudis le figuier. 24 heures plus tard, il était sec jusqu'à la racine. ce fut une expérience choquante. C'était la première fois que mes paroles avaient causé du tort à quoi que ce soit. Cela démontra cependant clairement, pour mes disciples, la puissance de la pensée, pour le bien comme pour le mal. Cela leur montra que plus une personne est évoluée spirituellement, plus grand est l'impact de ses paroles sur l'environnement. Je saisis l'occasion de relever pour mes disciples que je m'étais conduit de manière irréfléchie, comme le font la plupart des gens qui, lorsqu'ils ont des attentes élevées, ne peuvent avoir ce qu'ils veulent. Ils réagissent en général avec colère, hostilité. Ils pleurent et prononcent même des paroles dures qui pourraient, le cas échéant, aller jusqu'à vouloir du mal ou maudire la personne qui leur a refusé ce qu'ils désiraient. Ils voyaient maintenant eux-mêmes ce que ma malédiction avait fait au figuier. Ils devaient maintenant être capables de comprendre que si une conviction ferme leur apportait tout ce qu'ils désiraient et imaginaient, il leur fallait aussi être constamment conscients de leur propre état mental ou émotionnel. Ils ne devaient en aucun cas héberger de ressentiment à l'encontre d'autrui, mais pardonner rapidement. Faute de quoi, ils pourraient vraiment causer beaucoup de tort à ceux à qui ils en voulaient, tort qui leur reviendrait en retour en temps voulu, comme moisson de ce qu'ils avaient semé. En outre, étant donné que l'on récolte ce que l'on a semé, je savais que ce que j'avais fait au figuier me reviendrait inévitablement, d'une manière ou d'une autre. J'emmenai mes disciples au temple. Il y avait des années que je ne m'y étais pas rendu et je savais que ma visite servirait à déclencher le train des événements qui mènerait à ma crucifixion. Quelques personnes me reconnurent et en réponse à leurs demandes, je les instruisis. D'autres personnes se joignirent à nous et envahirent les étals des usuriers qui se plaignirent. Les cris et leurs lamentations brisèrent le flux de mes pensées pendant que j'enseignais. Soudain, ma colère se réveilla. Il y avait là des gens sérieux réunis autour de moi, désireux d'entendre les paroles de vie que bientôt je ne serais plus capable de leur transmettre, et il y avait les prêteurs sur gage qui gagnaient leur vie en vendant du bétail pour les sacrifices, ce qui ne faisait de toute manière aucun bien au peuple. Ces hommes ne faisaient que plonger les gens dans les dettes et la misère. Le sang me monta à la tête, je renversai les tables, dispersant leurs deniers, et chassai hors du temple ces hommes dont le seul amour était l'argent. Il y eut alors un grand brouhaha, des cris et des hurlements. Quelques personnes se mirent à quatre pattes pour ramasser les sous. Les prêteurs sur gage me maudissaient, disant que j'étais mauvais et faisais le travail de Belzébuth et de mille autres diables. Les prêtres et les pharisiens, et tous ceux qui faisaient grand cas des sacrifices dans le temple, accoururent pour chercher la cause du bruit et de la confusion. En entendant les prêteurs sur gage raconter l'incident, les pharisiens furent si outrés par mes agissements qu'ils vociférèrent et se lancèrent dans des condamnations et des lamentations destinées à impressionner les prêtres, chacun criant plus fort que l'autre, voulant montrer son désaccord horrifié avec ce que j'avais fait. On n'avait jamais vu une telle chose dans le temple. Même ceux qui m'écoutaient auparavant étaient maintenant gênés de mon obstination. Ils se demandaient quelle sorte d'homme j'étais. Ils se serraient les uns contre les autres, regardant ce qui se passait, lorsque les prêtres et les pharisiens les virent et s'approchèrent d'eux, les persuadant que j'essayais de détruire tout ce en quoi ils croyaient en prêchant un faux Dieu tout à fait contraire à ce qu'ils avaient toujours entendu dans leur synagogue. Les prêtres transmirent leur colère outragée aux gens et les convainquirent que mon péché les contaminerait s'ils persistaient à écouter ma folie. Peu à peu, les gens furent persuadés que j'avais une mauvaise influence sur eux et qu'il fallait m'éviter avant que je ne perturbe la paix du pays et fasse tomber la colère du gouverneur romain sur le pays de Palestine tout entier. Mes disciples, honteux de ce que j'avais fait, quittèrent la scène et se cachèrent dans les allées à une certaine distance du temple. Lorsqu'ils revinrent vers moi plus tard, ils me montrèrent clairement qu'ils avaient été, eux aussi, grandement éprouvés par mes actions. Ils se demandaient si j'avais perdu la raison, si j'étais devenu fou, prophétisant ma mort et faisant ensuite justement les choses qui en seraient probablement la cause. C'est à ce moment-là que Judas, qui n'avait jamais entièrement renoncé à ses croyances juives, commença à douter que je fusse vraiment le Messie. Cela faisait 3 ans que j'enseignais aux gens et la domination romaine ne s'allégeait pas. 3 ans et les gens n'approchaient toujours pas le bonheur que je leur avais promis. Et maintenant, il semblait que j'étais sur le point de devenir un agitateur, menaçant d'attirer la colère de Rome sur leur tête. Il entendit dire que le grand prêtre juif voulait se débarrasser de moi et lui offrit ses services pour m'identifier lorsque l'on lui demanderait. Quand il fut temps pour moi de manger la Pâque juive avec mes disciples, je m'arrangeai pour que nous mangions tous ensemble dans une grande salle à manger. Je savais que c'était la dernière fois que je mangeais sur terre. Je ne veux pas me replonger dans la conscience de cette nuit-là. Je ressentis une immense tristesse à l'idée de quitter mes disciples qui s'étaient tellement dévoués. Avec ma tristesse revinrent aussi toutes mes craintes et mes conflits intérieurs. J'eus des moments de grande émotion et de profond apitoiement sur moi-même. J'avais l'impression que personne ne comprenait ce que j'avais tenté de faire pour mon peuple et le sacrifice que je m'apprêtais à faire pour lui. Jean racontait avec entrain l'histoire de la dernière nuit des Israélites en Égypte, avant leur fuite dans le désert. Il parla de l'ordre donné par Moïse au chef de chaque famille. Tuer un agneau sans tache, l'accommoder d'une certaine façon, asperger de son sang les montants et le linteau de la porte des habitations israélites, parce que cette nuit-là, des anges massacreraient tous les premiers-nés des Égyptiens, ainsi que leur bétail. Il fit un récit touchant des clameurs des Égyptiens qui, se réveillant, trouvèrent dans chaque foyer leur premier-né ensanglanté, sans qu'aucun ne fût épargné. C'était le genre d'histoire horrible que je rejetais parce qu'elle n'avait aucune valeur pour qui cherchait une vérité spirituelle supérieure. Je me demandais jusqu'à quel point mes disciples avaient vraiment compris ce que je leur disais de leur Père céleste et de son amour pour l'humanité. Comment pouvaient-ils prendre plaisir à évoquer des anges en train de tuer les premiers-nés des Égyptiens alors que je leur avais clairement dit que Dieu, le Père, était amour. Mais les Juifs avaient toujours été obnubilés par le sacrifice par le sang pour expier leurs péchés. Même Abraham, le fondateur de la nation israélite, avait été convaincu qu'il devait emmener son fils unique dans le désert, le tuer et l'offrir en sacrifice à Dieu. Une pensée païenne et révoltante. Je pensais au sacrifice d'animaux dans le temple. Aimant toutes les créatures sauvages comme je les aimais, cette pratique m'était d'une abomination. Et maintenant, j'allais être mis à mort parce que j'avais osé prononcer les paroles de vérité. En considérant combien j'avais peu réussi à transmettre ma connaissance, je me demandais pourquoi j'avais été envoyé en vue d'une telle mission. Je ressentis un bref accès de ressentiment et de colère se mêler à mes sentiments habituels d'amour pour ces hommes. Avec un certain cynisme, je me demandais quel signe efficace je pourrais leur laisser en souvenir pour leur rappeler tous mes enseignements quand je ne serais plus avec eux. S'ils pouvaient oublier si vite tous mes enseignements sur l'amour du Père et aimer l'horrible histoire de la Pâque juive, moi encore présent avec eux, de quoi se souviendraient-ils une fois que je serais mort comme un criminel sur la croix, la plus méprisable des morts? Alors, il me vint à l'esprit que puisqu'ils étaient si émus par le sacrifice du sang, je leur donnerais du sang en souvenir de moi. Sur ces réflexions ironiques, je pris un pain, le rompis et passai à mes disciples en leur disant de le manger. J'assimilais le pain rompu au fait de briser mon corps et leur demandais de rompre le pain et le distribuer en souvenir du sacrifice de mon corps pour leur apporter la vérité à propos de Dieu et la vérité sur la vie, la vérité sur l'amour. Conscient que j'étais d'une humeur étrange, ils s'arrêtèrent de manger, m'écoutèrent, prirent le pain et le mangèrent silencieusement. Ensuite, je pris mon gobelet de vin et le passai alentour, disant qu'ils en boivent chacun une gorgée, car c'était le symbole de mon sang, bientôt versé parce que j'avais osé leur apporter la vérité de l'existence. Je vis que le ton de ma voix avait touché certains d'entre eux. Sobrement, chacun prit une petite gorgée et passa le gobelet à son voisin. Mais ils ne dirent toujours rien. Ils sentaient que j'étais sérieux et que je ne tolérais plus de discussion. Puis, je leur dis que l'un des leurs allait me trahir. En mon fort intérieur, je comprenais ses motifs et savais qu'il faisait partie de la séquence des événements à venir. Il ne faisait que jouer le rôle que sa nature lui avait soufflé. Je savais qu'il souffrirait beaucoup et je ressentis de la compassion pour lui. Mais je gardais ses pensées pour moi. Lorsque j'annonçai que l'un d'eux allait me trahir, prier Judas de partir et de faire rapidement ce qu'il avait à faire, les disciples s'animèrent, ne sachant si ce repas était vraiment leur dernier repas avec moi. Il y avait maintenant beaucoup d'émotions, de questions et même de récriminations parce que je les avais conduits dans un tel piège. À nouveau, ils s'interrogèrent sur ce qu'ils allaient faire de leur vie après mon départ. Ils demandèrent quelle serait leur place dans la communauté si j'étais crucifié. Ils deviendraient des objets de dérision. Personne ne croirait jamais plus un seul mot de ce qu'ils diraient. Profondément attristé par leur réaction égoïste à ma déplorable situation, je les assurai que leurs craintes pour leur propre sécurité étaient infondées. Ils m'abandonneraient et ne seraient pas rattachés à ma crucifixion. Je leur suggérai de se disperser après ma mort et de retourner en Galilée. Cela toucha profondément Pierre, qui réagit avec véhémence, niant qu'il m'abandonnerait jamais. Mais bien sûr, il le fit. Tout l'amour que je ressentais pour mes compagnons, tout ce que j'avais tant désiré accomplir pour eux, en ce moment où j'avais tellement besoin d'eux, ne rencontrait qu'incompréhension totale ou résistance de leur part. Leur unique souci était de savoir ce qui leur arriverait. Il n'y eut aucune parole de réconfort, aucune offre d'aide, aucune manifestation d'angoisse face à mon épreuve à venir. Que le cœur humain est dur, pensais-je. Combien de siècles faudrait-il avant que l'homme puisse dépasser ses maux et sa propre douleur pour ressentir un peu d'amour et de compassion vis-à-vis de ceux qui étaient encore plus malheureux que lui? Ainsi, bien qu'amèrement déçu et même blessé par leurs réactions égoïstes, je les comprenais, tentais de leur insuffler le courage de faire face au futur et leur assurer que je serais toujours avec eux, même lorsqu'ils ne me verraient pas. L'œuvre que j'avais commencée continuerait depuis l'au-delà. Je n'avais pas l'intention de les laisser seuls. Je savais qu'ils connaîtraient et sentiraient ma présence et en seraient réconfortés. Je leur dis de s'accrocher aux souvenirs qu'ils avaient de moi lorsque j'étais avec eux. Je les avertis qu'il y aurait beaucoup de gens qui poursuivraient leur chemin dans la connaissance que je leur avais donnée, mais que des étrangers chercheraient à ajouter la voix de la tradition et de la raison à mes enseignements. Mes paroles seraient si déformées qu'elles ne révéleraient finalement plus la vérité originelle que j'avais apportée au monde. Lorsque je leur dis que cela se produirait, ils furent perturbés et même paniqués. Je fus soulagé de voir que mes enseignements n'avaient pas été vains après tout, et n'étaient pas tombés dans des oreilles complètement sourdes. Ils me demandèrent de leur en dire davantage, mais je levai les mains et dis que c'était tout ce que je pouvais leur dire. Arrivé à ce stade, je sentis que j'avais dit tout ce que j'avais à dire pendant que j'étais sur terre et que mes discours aux hommes avaient été accomplis. Ce que je désirais le plus au monde était de me retirer dans le silence et de trouver paix et soulagement dans mon lien avec le Père. Nous quittâmes la salle à manger et nous dirigeâmes vers le mont des Oliviers. Mais mes disciples ressentaient un mélange de conflits intérieurs, de craintes et de doutes. La plupart d'entre eux me quittèrent pour rejoindre leurs familles et leurs amis qui célébraient toujours leur Pâque juive. Dans le jardin se trouvait un rocher particulier en forme de petite grotte. J'aimais m'y abriter du vent. Je m'assis donc, méditai et priai, cherchant ma voie vers l'harmonie exaltante que j'avais atteinte autrefois. Je savais qu'en entrant en unisson avec l'amour Père, mes peurs disparaîtraient. Je me retrouverais dans un état de paix et de confiance totale et absolue. Je sentais la puissance de l'amour me pénétrer, posséder ma conscience humaine. La force d'endurer ce qui m'attendait prit possession de mon cœur. Je resterai dans l'amour et donnerai de l'amour aux autres jusqu'à mon dernier souffle. Et il en fut ainsi. Je ne reviendrai pas sur le procès et la crucifixion. Cela ne porte pas à conséquence. Lorsqu'enfin je mourus sur la croix et que mon esprit se retira de mon corps torturé, je fus élevé dans une lumière radieuse et ineffable. J'étais entouré de la chaleur et du bien-être de l'amour, comme je ne l'avais encore jamais été. J'avais la sensation d'être enveloppé de louanges, de l'assurance puissante d'avoir bien travaillé, d'extase dans la force universelle pour continuer l'œuvre, d'une joie et d'un ravissement qu'aucun état terrestre ne connaîtra jamais. J'accédais à une nouvelle et merveilleusement belle façon de vivre, mais redescendis tout de même en conscience afin de garder contact avec ceux que j'ai laissés derrière moi. Je pus me montrer à ceux qui étaient suffisamment sensibles pour me voir. Cependant, l'histoire de Thomas, censée avoir désigné du doigt mes blessures, est un non-sens. Mes disciples ne savaient pas que je m'étais secrètement arrangé avec Joseph d'Arimathie pour qu'il emporte, après ma mort, mon corps vers son propre tombeau inutilisé, où il put loindre, selon la coutume, avant le coucher du soleil. Lorsque l'obscurité tomba, que tous observèrent le Shabbat à Jérusalem, assisté de deux fidèles serviteurs à cheval, il prit secrètement mon corps pendant la nuit pour l'emmener, loin des sentiers battus, vers une montagne des environs de Nazareth, en Galilée. Là-bas, assisté par ma famille et en suivant mes instructions, il trouverait une petite caverne cachée qui m'avait abrité des tempêtes et où je me réfugiais lorsque j'étais jeune, malheureux, rebelle et en guerre contre le monde entier. Joseph me promit de trouver la caverne d'après une carte que je lui avais donnée et de m'y laisser après m'avoir embaumé. Il refermait hermétiquement la petite entrée afin de la protéger contre d'éventuels intrus. Là-bas, mon corps repose à l'abri des tourments. Il a été dit de moi que mon corps a ressuscité. Quelle absurdité, évoquée par des esprits terrestres en mal d'explications satisfaisantes concernant ma mort sur la croix, comme un criminel. Quel besoin aurais-je eu d'un corps terrestre pour continuer à vivre dans la dimension suivante? Comment un mythe aussi ridicule a-t-il pu persister jusqu'au XXIe siècle? On peut mesurer le manque de compréhension des chrétiens par le fait qu'ils ont accepté aveuglément un tel dogme jusqu'à aujourd'hui. Pensez-y attentivement. Libéré d'un corps terrestre, ayant vécu cette expérience de l'extase et du ravissement glorieux qu'est le passage à une dimension supérieure de conscience universelle, pourquoi aurais-je voulu retourner dans la dimension terrestre pour revenir dans mon corps? De quelle utilité cela aurait-il été pour moi, dans votre monde ou dans le mien? Alors que la substance physique de mon corps, pendant que je vivais sur Terre, pouvait être spiritualisée dès qu'elle s'accordait parfaitement à la conscience d'amour père, mon corps n'aurait-il pas été une gêne et une entrave pour mes voyages ultérieurs dans les royaumes spirituels suprêmes? Les choses visibles ne sont que la manifestation de fréquences spécifiques de vibrations en conscience, lesquelles produisent un scintillement de petites poussières ou particules, donnant une apparence de matière solide. Toute substance visible possède sa propre fréquence vibratoire unique. Un changement de la fréquence de vibration produit un changement dans l'apparence de la matière. Lorsque les énergies de conscience changent, les apparences de la matière changent aussi. C'est pourquoi il m'était possible de concentrer et d'abaisser mes fréquences de conscience au point de rendre ma forme visible à l'œil humain. Je pouvais retourner vers mes disciples et être vu d'eux. Et c'est ce que je fis. Je les aimais plus que jamais et leur devais tout le bien-être et le soutien possible après ma mort. Et non seulement cela, mais il était nécessaire que j'instille ma puissance dans leur esprit afin de leur donner l'élan et le courage de continuer l'œuvre que j'avais commencée. Cependant, sachez que la conscience individualisée qui s'élève dans les fréquences vibratoires jusqu'aux portes même de la dimension créatrice universelle devient de la lumière individualisée, une conscience individualisée qui ne nécessite aucun corps pour exprimer et jouir de tout ce que la conscience glorieuse peut imaginer dans les royaumes spirituels les plus élevés. C'est un état de ravissement et d'être suprême sans aucun des besoins, désirs et impulsions qu'expérimentent ceux qui ne se sont pas élevés plus haut et au-delà de l'ego. Sur Terre, votre esprit reste ancré à l'intérieur de certains paramètres de fréquence vibratoire, emprisonné dans des corps qui ont leurs propres besoins. Si votre conscience devait vraiment s'élancer au-delà de ces paramètres, votre moi terrestre disparaîtrait. Quand j'ai été piégé dans un corps, je me suis aussi retrouvé en grande partie confiné dans ces paramètres de fréquence et de conscience vibratoire. En outre, votre imagination seule ne peut pas s'élancer plus loin que vos expériences passées. Vous êtes donc confiné dans votre passé que vous projetez sur votre avenir. Cependant, petit à petit, vous serez guidé par des esprits suffisamment sensibles pour accéder aux dimensions spirituelles plus élevées, qui peuvent de ce fait dépasser vos frontières de conscience présente. Ils s'imprégneront, à votre intention, de ces expériences et états d'être merveilleux qui vous dépassent et auxquels vous pourrez alors vous-même aspirer. C'est ainsi que vous avancerez dans votre développement spirituel par étapes ou marches successives. Chaque étape vous confère une vision plus haute de ce qui peut être réalisé. À partir de cette vision, vous formulez un nouveau but. En gardant ce but en tête, vous travaillez à vous purifier de l'influence contagieuse des impulsions d'attachement et de rejet de votre existence terrestre. Pas à pas, vous transcendez votre ego. Quand vous transcendez votre ego, qu'il se dissout dans votre conscience, vous êtes alors pleinement vivant dans la conscience d'amour Père et découvrez la réalité du royaume des cieux dans votre vie, en vous, dans votre environnement. C'est pour vous permettre d'atteindre ces sommets d'amour, de joie, d'harmonie, de ravissement que j'ai vécu, travaillé et suis mort en Palestine et que je viens aujourd'hui à vous dans ces lettres. Ne laissez pas mon travail être vain une deuxième fois. En lisant ces pages, en cherchant, méditant et priant pour recevoir l'inspiration, vous sentirez la réponse du Père. Si vous écoutez chaque jour attentivement, vous entendrez la voix du Père. Cette voix vous accompagne à jamais. Brisez les barrières créées par votre obstination. Ouvrez-vous et recevez la force, la puissance, l'inspiration et l'amour directement de la conscience d'amour Père. Lisez et relisez ces lettres afin d'en imprégner votre conscience. Ainsi, vous vous dirigez vers la lumière et vous rayonnez la lumière vers d'autres. Une telle lumière n'est pas simplement de la lumière comme l'électricité, c'est la nature même de la conscience universelle décrite lettre 1. Par conséquent, en rayonnant la lumière, vous rayonnez l'amour inconditionnel. Vous encouragez la croissance et le développement spirituel de toute autre créature vivante. Vous aspirez à nourrir et à élever. Vous travaillez à promouvoir protection, guérison et enseignement. Vous aidez à établir l'ordre et la loi d'amour par lesquels chacun pourra vivre harmonieusement dans le bonheur et la prospérité. Vous êtes dans le royaume des cieux. En même temps, ne vous bercez pas d'illusions. Une fois ces lettres présentées au monde, les mêmes récriminations, la même condamnation, la même accusation de colporter Satan, de manifestations diaboliques se feront entendre, comme au tout début de mes enseignements en Palestine. Soyez courageux, priez pour avoir du courage. Persévérez dans vos convictions, vous vous élèverez au-dessus de l'agitation, de la violence et reposerez dans la paix et la joie du royaume.